C'est avec Hervé Gattegnaud tous les jours. Bonjour Hervé.
Bonjour.
À la une ce matin, la grève des contrôleurs de la SNCF qui va perturber le trafic ferroviaire à partir de demain et durant le week-end.
Et c'est peu dire que cette grève passe mal. Le Figaro annonce un week-end chaotique et invoque l'indignation générale pour déplorer l'attitude des syndicats de cheminots qui ont pris l'habitude de bloquer les trains lors des départs en vacances. L'éditorialiste de l'Opinion rappelle que la masse salariale de la SNCF a déjà augmenté de 1,5 milliard d'euros en 3 ans, avec en plus de substantielles propositions de primes. Et son éditorialiste s'indigne donc. Malade de décennies de cogestion syndicale, la SNCF voit encore l'intérêt général s'effacer au profit d'intérêts particuliers. Le Parisien souligne de son côté le choix du moment par les grévistes, l'épreuve sociale avant les Jeux Olympiques.
Et il est vrai qu'à 5 mois de l'ouverture des JO de Paris, l'enjeu des transports suscite des inquiétudes.
Ce sera en effet l'un des principaux critères de la réussite ou de l'échec des Jeux. Dans Ouest-France, un sociologue spécialiste des mouvements syndicaux explique qu'il y a donc une fenêtre où faire pression menacée de conséquences plus dévastatrices qu'en temps normal. Mais il ajoute, le risque est aussi grand pour des syndicats de se voir accusés de ternir l'image internationale de la France et de gâcher la fête. On ne saurait mieux dire. Le Monde évoque lui aussi la grande inquiétude olympique sur les transports. Carte de l'Île-de-France à l'appui, le journal montre que les projets d'infrastructures prévus dans le dossier de candidature de Paris aux Jeux Olympiques ont été largement réduits ou au moins retardés.
L'hebdomadaire Le Point consacre sa couverture à une grande enquête sur les campagnes de désinformation qui visent la France et partent de Russie.
Passionnante et impressionnante enquête, en effet, dans les usines à mensonges russes. Les autorités françaises ont dévoilé avant-hier la mise au jour par nos services spécialisé d'une vaste opération d'intoxication téléguidée par le Kremlin. Le Point entre dans les détails en remontant une piste numérique, celle du site pravda-fr.com qui diffuse des fake news à la chaîne, le plus souvent pour dénigrer la France et servir la propagande russe pour légitimer l'invasion de l'Ukraine. Au-delà, c'est une galaxie de 147 sites qui publient des informations falsifiées, parfois en imitant même des titres de presse très connu. Dans l'ombre, Le Point désigne des personnages directement liés au pouvoir russe, notamment un adjoint du porte-parole de Vladimir Poutine.
Le magazine cite des exemples très concrets de ces tentatives d'intoxication lancées depuis Moscou.
En octobre dernier, 250 étoiles juives sont peintes sur les murs de Paris. Les photos circulent aussitôt sur les réseaux sociaux. Des médias francophones financés par Moscou amplifient la campagne. Deux Moldaves sont bientôt arrêtés. Leur lien avec la Russie est démontré, écrit Le Point, but de l'opération, faire croire que l'antisémitisme submerge la France sur fond de guerre en Israël. Autre exemple, le mois dernier, un compte X du gouvernement russe annonce la mort de 60 mercenaires français en Ukraine. Des sites publient une liste de noms. Vérification faite, beaucoup de ces noms sont faux, d'autres sont des humanitaires ou encore de vrais soldats mais bien vivants et rentrés en France. Selon Le Point, des infox du même genre ont été massivement diffusés pour impliquer l'armée française dans de faux massacres au Mali et même pour attiser la panique à propos des punaises de lit.
Un autre exemple de la propagande russe, les enlèvements d'enfants ukrainiens séparés de leurs parents et endoctrinés par le régime.
Stupéfiant récit de deux pleines pages dans le Figaro. L'envoyé spécial du journal à Riga, en Lettonie, a rencontré plusieurs de ses enfants déportés de force en Russie pendant des mois. Sachko avait 11 ans et vivait à Mariupol quand les troupes russes sont arrivées. Lui et sa mère ont été emmenés dans un camp de filtration, puis séparés. L'enfant blessé est hospitalisé à Donetsk. Il partage la chambre d'un soldat russe. « Lui et ses amis me disaient qu'il n'y avait plus d'Ukraine ni d'Ukrainiens », raconte Sachko, « que le pays était totalement occupé. J'ai cru que c'était vrai. On me disait que la Russie m'offrirait une vie meilleure. » Les autorités ukrainiennes évoquent des dizaines de milliers de cas similaires, un vol d'enfants à grande échelle pour saper le moral de la population, l'atteindre dans sa chair, son esprit et son cœur. La commissaire aux enfants de Vladimir Poutine, Maria Lova-Belova, est inculpée par la Cour pénale internationale pour son implication dans cette opération.
Effroyable. Et dans le même temps, l'armée russe s'attaque aux infrastructures énergétiques de l'Ukraine avec d'autres objectifs.
Les Russes ont tout fait pour nous plonger dans le noir, explique à Libération le ministre ukrainien de l'énergie, German Galushenko. Il raconte comment, à coups de missiles, la Russie cherche à priver l'Ukraine d'électricité pour mettre son industrie à l'arrêt et mettre à mal sa population. L'électricité est liée à l'approvisionnement en eau, en chauffage, dit-il. Ce sont des biens pour les civils. D'ailleurs, les Russes ne s'en cachent pas. Le principal objectif de leurs attaques est de faire souffrir l'Ukraine le plus possible. Selon le ministre, cette stratégie a échoué. L'Ukraine produit assez d'électricité pour passer l'hiver et espère bientôt en exporter à nouveau vers l'Europe. C'est aussi pour cela que la Russie attaque nos infrastructures, dit-il dans Libération. Elle sait qu'une Europe qui reçoit de l'électricité d'Ukraine a moins besoin de son gaz. Interview éclairante, si j'ose dire.
Et nous voilà au courant. Dans Philosophie Magazine, ce sont des policiers qui parlent de leur quotidien et de leur métier de plus en plus violent.
Ils suivent une formation en sociologie dédiée aux agents en activité et dispensée par l'université d'Amiens. Quand on a ouvert les candidatures, le téléphone n'arrêtait pas de sonner, dit un des formateurs. Leurs récits disent à la fois le malaise, la communication rompue avec le public, la déformation du regard des policiers sur la société et une forme d'impasse. Quand on arrive dans une brigade, dit Jean, enquêteur dans une ville du Nord, on suit les plus expérimentés. Quand vous êtes avec des collègues qui parlent mal à des jeunes de cité, vous finissez par faire pareil. Et ça peut aller loin. On se sent fort en groupe, on peut commencer à jouer les caïds. Puis, les interventions se passent de plus en plus mal. Les jeunes se rebellent, on nous agresse, et ça monte encore d'un cran. On envoie une compagnie de CRS. On va jusqu'où ? On s'entretue ? Témoignage à lire donc dans Philosophie Magazine et à méditer.
À méditer, merci beaucoup Hervé Gattegno, la revue de presse de Radio Classique. Tous les matins, à demain Hervé.
À demain.
Et dans un instant, Esprit Libre, Franz-Olivier Gisbert est déjà...